Bonjour tout le monde, excusez-moi, on commence avec un peu de retard. Bienvenue à Morges, en compagnie d'un duo qu'au fond, on ne serait pas forcément associé. Franck Tillier, Jacques Ravenne, qui lui est venu sans son compagnie, enfin sa moitié. On pourrait peut-être commencer par là. Un duo d'écrivains comme celui que vous formez, Giacometti Ravenne, ça fonctionne comment ?
C'est très simple, je fais tout, il signe, il prend le chèque. Voilà, voilà, maintenant vous pouvez poser des questions à Franck si vous voulez.
Il est absent, tu peux dire ce que tu veux.
Ben, c'est-à-dire, comme il n'est pas là, j'en profite. Ben, ça fonctionne comment ? Ben, tout simplement, on fait un travail préparatoire qui est assez important de plan du roman que l'on écrit, qui en général prend à peu près un mois. C'est un plan très détaillé, chapitre par chapitre, avec les actions dans les chapitres, les parties descriptives, les cliffhangers qui sont à la fin. Quand ce plan est prêt, ensuite on se divise le travail. Et comme dans nos romans, très souvent, il y a une partie contemporaine et une partie historique, Eric, mon co-auteur, se charge de la partie contemporaine et ensuite, moi, je prends la partie historique. Alors, les gens mal intentionnés se disent bah, « Oui, mais vous faites des bouquins de 600 pages, donc ça en fait 300 pour un, ça fait 300 pour l'autre, tandis que le malheureux Franck, qui est tout seul à côté, lui, il est obligé de se taper les 600 pages en entier. » Oui, mais nous n'écrivons pas pareil.
Ah,
parce qu'on n'a pas la même formation. Moi, je viens de l'université. Eric a été journaliste. Alors, Eric a une écriture plus sèche que la mienne. Moi, j'ai tendance à mettre des adjectifs partout et à me prendre pour Flaubert. Et donc, quand ensuite on compare nos chapitres, on fait ça tous les trois chapitres, Eric élimine mes adjectifs pour rendre ça un peu plus dynamique. Et moi, je trouve que c'est vraiment trop sec. Alors, je mets un peu de nerf à l'intérieur. Donc, en fait, on réécrit systématiquement ce que fait l'autre. Alors, parfois, l'écriture est assez simple. La réécriture est assez simple. Parfois, c'est un petit peu plus compliqué. Le grand avantage, en revanche, c'est que quand l'un des deux se fourvoie, quand voilà, ça ne va pas dans le bon sens, on n'est pas tout seul. Donc, il y a toujours quelqu'un pour vous dire, là, ce n'est pas la bonne direction. Ça marche à condition d'avoir réglé des problèmes d'ego. Mais comme on se connaît depuis les classes du lycée, problèmes d'ego sont en principe réglés depuis un certain temps.
Parce que, oui, le commissaire Marcas, qui l'a vraiment inventé ? C'était en discutant.
Vous voulez vraiment savoir ça ? Mm-hmm. C'est parce qu'on s'est engueulé. C'est aussi simple que ça. Mon co-auteur à l'époque était journaliste au Parisien. Il est descendu faire une enquête sur les francs-maçons sur la côte, on va dire la côte d'Azur en France. Et bon, la franc-maçonnerie sur la côte d'Azur en France, c'est parfois un petit peu folklorique. C'est-à-dire que les gens qu'il a interviewés passaient plutôt sous les barreaux qu'autre chose. Et quand il est revenu me voir, il me dit « Oh là là, les francs-maçons, mon Dieu, c'est terrible, les corrompus, les ceci, les cela ». Et moi, je venais d'être initié franc-maçon, un an avant. Et moi, je n'avais pas eu encore la chance d'être corrompu, de toucher de l'argent. Donc, je lui dis, mais non, pas du tout, c'est pas du tout ça. Ça s'est terminé par une engueulade. Et à la fin, on s'est dit, mais c'est quand même curieux, il y a plein de fantasmes sur la franc-maçonnerie et jamais on n'a vu de héros.
Ouais, c'est vrai.
Franc-maçon littérature, il y a quelques exemples qui existent chez Tolstoï. Mais enfin bon, de là, se comparer à Tolstoï, il y a un pas. Et donc, on a créé comme ça un personnage. Et quant au nom du personnage, ça vient de Balzac.
Ah bon ?
Eh oui, parce que Marca, c'est une nouvelle de Balzac. Et vous connaissez l'anecdote ? Balzac avait une imagination absolument délirante. Un jour, n'a pas réussi à trouver le nom d'un personnage. Alors il est descendu en pantoufle dans la rue, il a marché, et la première boîte aux lettres qu'il a trouvée, il a regardé le nom, c'était Marcas. J'ai trouvé ça tellement génial
vous lui avez piqué.
Que maintenant, j'ai piqué à Balzac. Bon, c'est mon seul emprunt. Hein.
Et vous, Franck, parce que dans ce dernier livre, Rêvé, vous abandonnez votre héros récurrent Charcot et Lucie, une belle. Justement, alors que vous n'abandonnez pas votre personnage, c'est un soulagement, une respiration.
Oui,
nécessaire.
C'est un peu des deux, c'est-à-dire que ça fait du bien de les abandonner, puis quand on les abandonne, ils nous manquent. En fait, j'ai toujours eu vraiment deux univers que j'aime et que j'ai aimé quand j'étais plus jeune. C'était l'univers plus très policier, où vraiment il y avait une structure, où il y avait tout un mécanisme, la mécanique de l'enquête. Les romans d'Agatha Christie, par exemple. Et puis, il y avait l'univers beaucoup plus fantastique, d'horreur, de Stephen King. Voilà. Donc, j'avais ces deux amours-là, on va dire. Et quand je me suis mis à écrire, j'ai commencé par une histoire policière, vraiment avec une mécanique, une intrigue. Et puis, après avoir écrit ce premier roman, j'ai eu aussi envie de me dire, mais tiens, il y a l'autre univers vraiment qui m'attirait. Et dès le début, en fait, de mon écriture, j'ai, on va dire, globalement alterné entre des histoires policières et des histoires qui restent dans le milieu du suspense, de l'angoisse, mais qui sont plus axées sur la psychologie, par exemple. Donc, il n'y a pas forcément policier dans ces livres-là. Et c'est vrai que j'ai eu la chance que les lecteurs me suivent dès le début dans les deux aventures, parce que c'est vrai que à chaque fois, à chaque salon, à chaque rencontre que je fais avec les lecteurs, il y a vraiment moitié-moitié, la moitié qui me dit « Ah, mais nous, on aime vos personnages, on aime moins les autres », et les autres qui me disent « Mais on adore quand vous sortez de vos personnages et que vous écrivez des romans sans eux ». Donc voilà, moi, ça me satisfait un peu ce genre de rencontre, que les gens aiment soit l'un soit l'autre, et ça me permet vraiment de naviguer entre les deux univers. Et comme vous dites, ça permet de respirer aussi, parce que c'est vrai que quand on écrit des gros livres avec le personnage, et ben, parfois on a envie de les laisser un peu de côté et de dire ben, on va les laisser souffler, nous-mêmes on va souffler avec les... on va les laisser souffler, on va respirer un peu, on va les sortir un peu de notre tête pour passer à d'autres choses. Donc voilà, c'est une espèce d'équilibre qui est propre à chaque auteur.
Ce qui demeure et qui vous rapproche d'ailleurs, c'est un énorme, enfin de l'extérieur, ça y paraît, un énorme travail de documentation et de recherche, que ça soit dans le domaine du rêve, du narcoleptique, de tout ce que, ou dans le domaine historique. C'est une partie du plaisir de l'écriture chez vous, ou c'est une obligation de le faire?
Je pense que ça part toujours d'un plaisir, hein, puisque il faut vraiment écrire par rapport à des affinités qu'on a dans notre propre vie. Moi, j'ai toujours aimé la science, j'ai toujours aimé le rapport à la médecine et comment fonctionne l'être humain. Donc forcément, quand je me documente, je me fais avant tout plaisir à moi-même, je m'instruis moi-même et je me dis, en même temps, ces thèmes-là, ça intéresse. C'est des thèmes qui sont généraux, le sommeil, la mémoire, ça intéresse tout le monde. Donc j'ai la chance que les sujets qui me passionnent intéressent aussi les gens. Donc je me fais vraiment ce plaisir-là. Je pense que Jacques, il a une vraie affinité avec l'histoire et donc forcément, on écrit un peu dans ce qu'on aime. Ça serait dommage d'aller un peu... Moi, j'aurais beaucoup de mal à écrire un roman historique, par exemple, parce que je n'ai jamais eu, dès le plus jeune âge, cette affinité avec l'histoire. Et donc, je serais obligé de me forcer et quasiment de repartir à zéro si j'avais besoin d'écrire un roman historique. Et donc, voilà, il y a quand même une contrainte, à un moment donné, de la documentation. C'est pas toujours gai de lire des livres qui font 600 pages. Mais en même temps, il y a quand même ce plaisir sous-jacent qui est là, parce qu'on se dit, on va essayer de ressortir vraiment de toutes ces lectures les choses les plus visuelles, les choses les plus intéressantes, et de synthétiser tout cela et de le vulgariser dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de le rendre accessible au lecteur. Et ce passage-là, la vulgarisation, c'est aussi quelque chose d'assez compliqué. Parce qu'on absorbe des choses qui sont complexes, des thèmes complexes, l'ADN, c'est pas forcément simple, ou l'évolution, et de voir comment on peut réussir à l'intégrer dans une histoire que tout le monde peut comprendre, mais qui ne soit pas naïve non plus, quoi.
Et justement, Jacques, quelle latitude vous donnez-vous par rapport à toutes ces données qui sont factuelles, enregistrées, et quand même la latitude du romancier, de la fiction, du romanesque, s'il fait qu'on peut vous qualifier les deux de maître de l'imaginaire, finalement?
Je crois que ce qui a changé par rapport aux lecteurs de romans policiers ou de romans d'horreur ou de romans historiques par rapport à il y a peut-être une quinzaine d'années, c'est que le lecteur demande aujourd'hui une très grande précision et une très grande adéquation avec ce sur quoi on écrit. Des textes strictement imaginaires sur l'histoire ou sur la science aujourd'hui ne seraient plus possibles, tout simplement parce que le lectorat a une double lecture. Il lit votre histoire, et que ce soit chez Franck ou chez nous, il apprend un certain nombre de choses, mais ce qu'il fait, c'est qu'il va aller sur Internet, et il va aller, non pas vérifier, mais il va aller essayer d'approfondir ce que vous apportez en thématique historique ou en thématique scientifique. Et donc, vous devez d'être le plus rigoureux possible. En même temps, le problème de l'argumentation, et Franck l'a très bien dit, c'est qu'aujourd'hui, quand vous voulez vraiment être très précis, ben, soit il faut lire des pavés, en particulier en sciences, complexes et très longs, soit en histoire, vous fonctionnez avec les fonds numériques des bibliothèques. Mais à un moment, c'est un véritable labyrinthe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez une thématique, vous avez accès sur Internet à 1000, 1200, 1300 articles sur une thématique en anglais ou en français. Et à un moment, pour sortir, pour reprendre une terminologie biblique, le bon grain de livret de ce genre de texte-là, ça devient extrêmement difficile. Donc il y a aussi une difficulté dans ce métier-là, qui est le moment où vous arrêtez la documentation pour écrire. C'est-à-dire que vous sortez de la fascination de la documentation, vous vous dites « Ah, ça c'est génial, je vais en parler, puis je vais parler de ça, puis je vais parler de ça ». Et à un moment, vous dites « Ah oui, mais au moins, il va falloir écrire ». Et là, c'est ce que Franck a défini comme terme de vulgarisation, c'est de mettre en musique quelque chose qui est didactique. Et c'est parfois un petit peu difficile, parce qu'après tout, la recherche, je dirais, documentaire, elle est plaisante. Vous êtes rassuré, vous êtes dans un univers de livres, il y a toujours à apprendre plus. Et puis bon, à un moment, il faut se mettre vraiment au travail, et il faut que ça trouve sa propre justification. Et c'est là, parfois, où pour lui comme pour nous, ça peut être délicat.
D'autant que vous avez choisi quand même un sujet, je ne vais pas dire d'emblée on n'y croit pas, mais le Graal, c'est quand même, on en parle comme d'une chose tellement fantasmagorique. Enfin, et vous arrivez à écrire, on finit par y croire. Enfin, c'est là que vous voulez nous emmener, j'imagine. Je suis embarrassée parce qu'on ne peut pas trop en dire pour ceux qui n'ont pas lu le livre, mais...
Alors d'abord, c'est vrai que les livres qu'on écrit sont des mécaniques d'horlogerie. La mécanique est faite pour arriver à un résultat. Donc effectivement, le résultat fondamental des thrillers que nous écrivons avec Franck, c'est essentiellement qu'il y ait une adhésion à ce que nous écrivons et que les gens, effectivement, y croient. Sinon, ça ne marche pas. Si vous n'avez pas le pacte de la confiance dès le démarrage avec le lecteur, au bout de la centième page, il abandonne. Sur le Graal... On a été très étonnés, parce que quand on a terminé le bouquin, on a demandé à notre éditeur de faire un sondage, parce qu'on s'est dit, c'est quand même curieux, comment se positionnent les gens aujourd'hui par rapport au Graal. Et les résultats ont été très étonnants. 65% des gens en France croient que le Graal a existé ou existe. Alors que nous, on pensait que c'était plutôt quelque chose qu'on ressuscitait, qui était un petit peu, je ne dis pas passé de mode, mais voilà, on retravaillait sur autre chose. Non, parce que le Graal, c'est un synonyme, comme c'est un symbole multiforme, c'est un synonyme d'espérance. Et franchement, dans la société dans laquelle on vit, quand vous travaillez sur un symbole d'espérance, surtout avec le sens qu'on lui donne nous, mais ça on ne le dira pas, parce que sinon ça ne sera pas la peine d'acheter le bouquin, dans ce cas-là, vous avez cette espèce d'avancée qui est très grande. En fait, le travail sur le symbole permet un peu à tout le monde de s'y reconnaître.
D'ailleurs, sans en dire trop, le Vatican est amené à s'impliquer dans le livre d'une manière très forte. Non pas tant pour trouver, arrêtez-moi quand j'en dis trop, mais non pas tant pour trouver l'objet précieux dans son caractère sacré, mais comme une nouvelle carotte au bout d'un bâton pour convaincre des gens.
En fait, on est parti d'une étude scientifique qui a été publiée, en partie basée sur les algorithmes, je sais que Franck aime bien ça aussi, qui consiste à voir quels seront les effectifs de part de marché des religions dans 50 ans. Et si l'Église catholique, ou le christianisme en général, voit ses parts de marché, j'emploie volontairement un terme capitalistique, monter, à un certain moment, ça s'arrête, et ils sont dépassés par l'islam. Donc il y a une réunion de crise au Vatican en disant « Bon, c'est bien, mais là, on ne va pas se faire voler notre marché de base. Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et un des cardinaux dit « Mais vous savez, aujourd'hui, vous avez les églises qui sont vides, mais en revanche, les sanctuaires... où il y a, des miracles, c'est-à-dire lourds, sont archi-pleins. Les gens ne viennent plus à l'église pour entendre une leçon, mais en revanche, ils vont très facilement dans les sanctuaires. Donc, comment renouveler le marché ? Trouvons de nouveaux produits, ou plutôt recyclons un produit ancien. Et s'il y a une relique qui a toujours été cherchée depuis le haut Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, qui est l'essence même de l'Église catholique du Graal, puisqu'elle est censée contenir le sang du Christ, c'est le Graal. À partir de là, le Vatican lance son enquête pour essayer de retrouver cet objet qu'on retrouve.
Franck, donc là, je reviendrai là-dessus tout de suite, mais Franck, ces techniques d'investigation, je ne sais pas comment on peut dire, narcoleptiques, sont réellement utilisées par la police ou par
les techniques, c'est-à-dire de...
De se faire, enfin, de ces collaborations...
Là, si vous parlez du personnage principal,
oui,
qui est psychocriminologue, comme on dit, oui. Ce métier existe.
Ce métier existe.
C'est-à-dire, ce sont des.
Jusqu'à ce point-là.
Alors, on va dire qu'elle est psychocriminologue à la base, c'est-à-dire qu'elle va aider les forces de l'ordre, les gendarmes ou les policiers, sur des affaires criminelles complexes, parce que vous savez, les policiers, en fait, sont plutôt factuels, c'est-à-dire qu'ils arrivent sur une scène de crime, ils vont chercher les indices, ils vont chercher à interroger les voisins, etc. Et il y a des métiers qui existent aujourd'hui, surtout avec la gendarmerie, où des gens viennent, pour, en regardant la scène de crime, ils ne vont pas regarder, chercher l'ADN, mais ils vont essayer de comprendre ce qui s'est passé, ce qui a pu pousser le criminel à commettre son acte. Donc ils vont essayer de donner une psychologie à ce criminel et
comme
à la victime.
Comme les profileurs, etc.
Alors il se trouve que mon personnage principal souffre d'une maladie du sommeil qui s'appelle la narcolepsie, mais ce n'est pas lié à son métier. On va dire que c'est une maladie qu'elle...
Mais elle s'en sert quand même, en même temps.
Elle s'en sert, disons que ça lui pose plutôt des vrais problèmes, en fait, puisque je ne sais pas si les gens connaissent, la narcolepsie, c'est une terrible maladie du sommeil qui est, on va dire, l'un des symptômes les plus connus. C'est l'endormissement spontané n'importe où et n'importe quand, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas contrôler leur endormissement. Mais il y a d'autres symptômes dont je me sers dans le livre, parce que ça se prête vraiment bien au roman, quoi, on va dire. C'est que beaucoup de narcoleptiques ont tendance à confondre les rêves et la réalité. C'est-à-dire qu'ils ont des endormissements tellement rapides et ils passent tout de suite en sommeil paradoxal, c'est-à-dire dès qu'ils s'endorment, ils rêvent immédiatement. Et en fait, parfois, les rêves, avant même qu'ils s'endorment, quand ils sont dans cette phase-là, viennent empiéter sur leur réalité. Donc ils sont encore réveillés, mais ils voient des images de rêves qui leur parviennent devant leurs yeux. Et donc ils ne savent plus très bien si ce qui les entoure, c'est la réalité ou la fiction. Ils ont même des rêves qui se stockent en souvenirs, c'est-à-dire le personnage a des souvenirs, comme par exemple elle est venue à Morges, elle a ce souvenir-là, sauf qu'elle n'est jamais venue, elle a juste fait le rêve d'être venue à Morges. Donc c'est assez terrible, on imagine bien que ce sont des personnages fragiles qu'on peut manipuler, puisqu'on... on peut lui faire croire que ce sont des souvenirs, des vrais ou des faux souvenirs. Donc voilà, c'est un personnage qui doit, à travers son métier, lutter aussi contre cette maladie. Donc c'était très intéressant à développer autour de ce thème du sommeil. C'était le sujet qui m'intéressait dans le livre.
Vous avez eu des réactions des milieux, justement, policiers, par exemple. Ils vous ont dit oui, voici...
Alors c'est vrai, bon, il y a toujours des réactions avant et après, puisque... des policiers, j'en rencontre avant d'écrire mes livres. Hein. C'est des gens que je vais voir pour leur poser des questions, parce que globalement, aujourd'hui, je sais comment fonctionne une enquête policière, mais il y a toujours des questions très précises par rapport à l'histoire qu'on raconte. Pareil, j'ai rencontré une personne narcoleptique pour vraiment voir comment aujourd'hui un narcoleptique peut mener une vie, on va dire, à peu près normale. Et il y a les réactions après lecture qui, en général, sont vraiment sympathiques. Ce que disait Jacques tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a quand même un devoir de vérité par rapport à ce qu'on écrit, hein, sur des sujets, en ce qui me concerne, scientifiques, mais historiques. Hein, il y a quand même cette notion de précision. On peut pas dire n'importe quoi, mais parfois on s'autorise des raccourcis, en fait. Moi, je sais que dans la police judiciaire aujourd'hui, il y a 50% de paperasse et 50% d'enquête. Et en fait, moi, dans mes livres, j'ai tendance à repousser la paperasse, à la rendre quasiment inexistante pour privilégier l'enquête. Et donc là, bon, c'est pas le vrai métier de policier. Mais quand vous rencontrez un policier qui a lu votre livre, il va dire, bah oui, en fait, ce que tu racontes, c'est vrai, c'est ce qu'on aimerait faire. Mais malheureusement, quand on est obligé d'attendre 3 jours pour avoir un papier pour pouvoir perquisitionner chez quelqu'un, bon, moi, quand ils ont besoin de perquisitionner, ils y vont, quoi. Et voilà, parce qu'on comprend bien qu'on est dans le rythme du thriller et on a horreur des attentes, en fait, des temps morts, et donc on est toujours obligé de trouver, quand ils attendent pour un ADN, il faut qu'ils fassent autre chose. Donc on essaye de jongler en permanence avec ces aimants-là, et je crois que ce qui est plus important dans le genre qu'on écrit, c'est la gestion du temps. Ça, on n'en parle jamais, mais c'est un vrai casse-tête. Et quand Jacques dit oui, on fait le plan à deux, Eric fait ça et moi je fais ça, en fait, il dit pas tout, parce que c'est beaucoup plus compliqué, en fait, quand il travaille à deux, mais tout est entremêlé, en fait. C'est-à-dire quand il fait des recherches historiques, il faut que ça fonctionne bien dans le présent, il faut se dire comment on va amener la partie du passé, comment on va la rendre vivante dans le présent. Donc en fait, c'est vraiment imbriqué, et ils sont pas à deux à travailler chacun d'un côté. Moi, sur certains scénarios, j'ai travaillé à deux, et en fait, travailler à deux, ça divise pas le temps par deux. Je pense que c'est même plus long.
Ça multiplie les soucis.
C'est plus long que si on était tout seul à écrire 600 pages. D'écrire deux fois, pour simplifier, deux fois 300 pages qui font 600, c'est plus long que d'écrire peut-être 600 pages.
Puis il y a des... Alors, pour ce qui me concerne dans la partie historique, il y a des périodes historiques qui sont, pour l'écrivain de thriller, beaucoup plus compliquées que d'autres. Quand vous travaillez sur le médiéval, les sources, bon voilà, sur une période de 10 ans, il y en a une trentaine. Une fois que vous avez lu les chroniqueurs, que vous avez bien mis en place les dates, vous vous lancez et vous avez parfois des trous de 3 ou 4 mois où personne ne sait ce qui s'est passé. C'est un bonheur pour le romancier parce que boum, vous vous lancez et puis voilà. Mais alors quand vous commencez à monter, remonter dans le temps et vous rapprocher d'une autre, là c'est infernal. Moi je me rappelle à un moment, on avait évoqué avec Eric l'idée de faire une partie sur Napoléon. Moi j'adorais ça, je me dis ça y est, c'est... là je vais prendre vraiment du plaisir à écrire ça. Jusqu'au jour où je suis tombé sur le bouquin d'un érudit qui fait 4240 pages et qui raconte la vie de Napoléon heure par heure et jour par jour. Et là, je me suis aperçu que je ne pourrais jamais écrire un bouquin sur Napoléon parce que je ne peux rien inventer. Il est là, puis 2 heures après, il est là. Enfin, c'est totalement infernal et vous vous retrouvez avec le couperet, ce qui, pour l'époque révolutionnaire à Napoléon, est un jeu de mots amusant, évidemment, du type qui vous dit « Ah, monsieur, vous êtes bien gentil, mais en fait, à 4 heures de l'après-midi, Napoléon était au WC. » Donc là, vous laissez tomber, il n'est pas en train de... voilà. Et plus vous approchez des périodes contemporaines, plus les sources sont immenses. Imaginez avec Facebook, c'est heure par heure ce que font les gens, et ça va rendre assez délicat le travail de nos successeurs dans 20 ou 30 ans qui font évidemment ce genre de choses, parce qu'on leur lègue une époque romanesquement pourrie.
Il n'y a plus de vie privée, quoi.
Il n'y a plus rien, oui.
Oui, y a plus de...
Mais déjà, même pour nous, c'est, dans, le dans l'enquête policière, c'est assez horrible, parce qu'il y a quelques années, dans les générations précédentes, les policiers pouvaient défoncer les portes, ils pouvaient se perdre dans les bois sans que 10 minutes après, il y ait 3 hélicoptères qui arrivent. Maintenant, par exemple, sur une scène de crime, il y a les portables, les téléphones portables. Et bien, normalement, dans le portable d'une victime, vous trouvez tout ce qu'il faut. Le c'est-à-dire qu'en général, dans 80% des cas ou 90% des cas, l'assassin est contenu dans le portable de la victime. Et donc, ce que tu dis, ça nous complexifie remarquablement les choses, parce qu'il faut qu'on se dise, quand il y a une scène de crime, il faut qu'on se débarrasse du portable, parce qu'il faut que ce soit compliqué, ce qu'on raconte, pour ne pas trouver l'assassin tout de suite. Donc, on doit gérer aussi cette modernité, cette information qui est partout présente, tout est décrit aujourd'hui. Maintenant, si dans un roman, quelqu'un se promène dans les bois et vous mettez qu'il n'a plus de réseau à son téléphone, les gens vont dire « Ah, mais là, c'est pas vrai, quoi. » Donc, ça rend vraiment les enquêtes... aujourd'hui, si quelqu'un ne veut pas laisser d'ADN sur une scène de crime, il faudrait quasiment qu'il se glisse dans une combinaison en latex et qu'il zippe tout jusqu'en haut, parce que, voilà, donc ça rend nos histoires complexe à raconter.
Plus compliqué.
Le prochain roman de Franck s'appellera Le Portable, mais il ne fera que 4 pages.
4 pages.
Je suis désolé. Il sera très bien. Hein. Ça sera 4 pages exceptionnelles.
L'autre difficulté, j'imagine, c'est quand même, spécialement pour vous, le contexte quand même du Vatican. On sait qu'il avait réagi par rapport à Dan Brown, par exemple. C'était le cas aussi, quand on met à plat peut-être des stratégies presse de marketing.
Non, le Vatican en général reste assez... vous savez, ils ont quand même 2000 ans d'antériorité, donc ils restent assez calmes là-dessus. Quand ils avaient réagi sur Dan Brown, c'était un cardinal qui avait réagi en mettant le livre à l'index. C'était jamais allé très très loin. La politique vaticane là-dessus, c'est les autres passent, nous restons. Hein. C'est assez clair là-dessus. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'on voit toujours le Vatican comme quelque chose d'extrêmement traditionnel, voire obsolète dans son fonctionnement par rapport à la rapidité du monde moderne, où, je sais pas, par exemple, là, voilà, les chaînes de télévision continuent. En fait, leur capacité scientifique et leur capacité d'analyse sont parmi les premières d'Europe.
Ce que vous montrez, d'ailleurs, oui. C'est passionnant.
Leurs ordinateurs sont quasiment maintenant au niveau de ceux qui se font aux États-Unis. Et ils ont un recrutement, en plus, dans tous les pays du monde dans lesquels les têtes pensantes montent. Et ils ont des réseaux scientifiques qui sont très, très, très impressionnants. Et je pense qu'ils doivent rigoler parfois quand ils lisent certaines choses en se disant « Continuez à croire qu'on en est encore là, vous inquiétez pas, on a déjà 10 ans d'avance. »
De quoi même créer une parano, non, quelque part.
Je pense que pour l'instant, c'est assez curieux, mais il n'y a pas tellement de paranoïa sur l'Église catholique. Alors, vous avez des courants américains traditionalistes qui voient le Vatican et les catholiques comme le mal absolu. Bon, c'est un vieux fantasme protestant. Mais en Europe, vous avez, et dans le reste du monde, vous avez beaucoup plus des fantasmes sur les francs-maçons que sur le Vatican. Mais vous inquiétez pas, le Vatican réagit toujours de manière discrète, mais est loin d'être dans l'attente.
D'ailleurs, les francs-maçons, ont-ils réagi, eux ?
Les francs-maçons, c'est... Ah bon ? Alors, les francs-maçons, comment ils réagissent ? Quand on a sorti notre premier livre avec Eric, on a eu quelques réactions un petit peu, pas négatives, mais un petit peu gênées aux entournures. Mais il faut comprendre le pourquoi. En France, durant l'occupation entre 1944, les francs-maçons ont été interdits de travail, certains ont été arrêtés, une partie a été déportée, d'autres ont été fusillés. Il y a dans la tradition française une sorte de volonté, je ne dis pas de clandestinité, mais de discrétion, qui tient à cette période où tout à coup le monde s'est effondré pour eux. Et les francs-maçons, parmi les plus anciennes, n'aiment pas forcément qu'on parle de leur rituel, de la manière dont ça fonctionne dans les loges. Mais de notre côté, vous allez dans n'importe quelle bibliothèque aujourd'hui, n'importe quelle librairie, l'intégralité des rituels maçonniques sont publiés depuis... Vous savez que la première fois qu'un rituel maçonnique a été publié, ça a été 2 jours après la première tenue maçonnique. Donc vous voyez, c'est quand même arrivé assez rapidement. Et donc maintenant, c'est quelque chose qui est rentré assez dans les mœurs. Puis bon, on a créé un franc-maçon sympathique. Or, en général, dans les médias, quand on parle des frères, c'est pas forcément avec beaucoup de sympathie. On parle de corruption, on parle d'immobilier, on parle de politique, on parle de beaucoup de choses. Mmh. Nous, le nôtre, il est plutôt honnête. Non, il est même honnête, en fait, oui. Donc, voilà. Donc, maintenant, ça se passe bien.
Puis surtout, il fait même preuve d'ironie et d'humour quand il compare les loges, les petites rivalités.
Vous avez 150 000 francs-maçons en France. Ils représentent la société française avec ses qualités et bien entendu avec ses défauts. Ce sont effectivement des gens qui sont en quête de vérité, qui ont une recherche intérieure. Mais ça ne vous empêchera pas d'avoir, bien sûr, à l'intérieur, des gens qui ne sont pas forcément parfaitement honorables. Et puis, vous avez des gens qui sont un petit peu illuminés aussi. Alors, on aime bien nous mettre dans nos personnages quelques-uns de ces francs-maçons qui sont assez risibles. Moi, j'ai connu un franc-maçon qui était un garçon extrêmement gentil, mais qui était la terreur des loges du sud de la France. Parce que comme quand vous êtes franc-maçon, vous pouvez aller dans toutes les loges. Il venait avec une espèce de gros sac, et dans ce sac, il y avait un manuscrit de 300 pages, et c'était le secret pour que les retraites en France soient enfin à l'équilibre. Donc on n'est jamais arrivé, évidemment, mais lui, il savait. Et donc, il envoyait des mots au frère en disant, vous savez, je vais faire une conférence sur la retraite, et au début, vous faites avoir, il arrive, et puis ça dure 2h30. À la fin, les frères sont en dépression, la moitié se suicide, ceux qui veulent aller à la retraite ne veulent plus aller à la retraite. Et voilà, vous avez comme ça des gens un petit peu, mais vous en avez dans tous les milieux.
Vous n'avez jamais songé à l'abandonner, le commissaire Marcas, comme Franck, un petit moment?
Peut-être qu'un jour, on entamera une autre série sur une autre thématique, mais vous savez, ce genre de personnage, et Franck en fait l'expérience, il y a un moment où vous n'existez plus derrière votre personnage. C'est lui qui vit, et vous, vous êtes en deçà. Moi, je dis toujours qu'on a eu 3 périodes avec Eric. Première période, on allait dans les salons, et puis les gens nous disaient « Ah, c'est bien, vos bouquins, c'est super, etc. » On était contents pour nos livres. Puis une deuxième période, on disait « Ah, Giacometti Ravenne, qualitatif, on était contents pour nous, l'ego était surgonflé. » Puis il est arrivé une troisième période, on nous a parlé que du commissaire Marcas. Là, ça a été fini pour l'ego, ça a été terminé définitivement. Et les gens l'ont tellement bien intégré que maintenant, il arrive parfois, comme dans certains salons, se fasse engueuler parce que la vie du commissaire Marcas ne correspond pas à l'image. Alors, je vous donne un exemple. À une époque, quand on avait un personnage féminin en trop, facilité d'écrivain de thriller, on le tuait. Ça, c'est le grand avantage quand vous écrivez des romans policiers. Une fois que vous avez un personnage et vous ne savez plus quoi en faire, boum, vous le tuez, c'est radical. C'est, voilà. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a eu une mauvaise période avec Eric, je suppose. On a tué 5 ou 6 d'affilée. Et à un moment, on avait des gens qui disaient « Non, mais la vie sentimentale de Marcas, c'est plus possible maintenant. Il faut faire quelque chose. Mariez-le nous. C'est plus possible. » Bon, on a arrêté. Non, maintenant, on fait attention. Non, le personnage envahit. Et ça, c'est très frappant. Pour le lecteur, il est réel. Des gens vous disent « Ah, mais Marcas agirait comme ça. » Ah bon, bah écoutez, si vous le dites, on vous croit, on n'ose pas trop la ramener. Dans ces cas-là, on est très discret. Voilà.
Je pense que Franck Tillier doit être très sensible à ça, parce qu'avec Charcot, à un moment, on avait un peu l'impression qu'il vous débordait.
Oui, non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que les lecteurs s'approprient les personnages, en fait. Ils les considèrent presque comme des êtres vivants, enfin, qui sont auprès d'eux. Et moi, je sais que j'avais été particulièrement assez méchant avec mes personnages principaux. Et puis, les gens venaient me voir un peu en colère. Ah, mais fichez-leur la paix. Quand est-ce qu'ils vont avoir droit au bonheur, ce couple? Et en même temps, ça nous aide quand même, parce que nous, quand on écrit nos livres, moi, je ne connais pas le destin de mes personnages. Donc, j'y vais un peu comme ça. Je me dis, tiens, je vais remettre quand même une couche là pour voilà, un petit meurtre et tout. Je vais les faire souffrir. Je me dis, ça va plaire aux gens. Et après, les gens viennent et puis disent, ah, mais là, ça commence à faire beaucoup. Et Je les écoute et je me dis, ben oui, parce qu'en fait, on répond aussi à l'attente des lecteurs. Et je me dis, ben voilà, c'est vrai, ils ont peut-être raison, j'y suis peut-être allé un peu fort. Et donc, en fait, c'est un peu de cette manière-là que le destin des personnages se trace. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de plan défini à l'avance. Je ne sais pas ce qui se passera dans 5 ans avec mes personnages. C'est au livre par livre. Et j'aime beaucoup recueillir un peu les sensations des lecteurs après un livre. Quand vous avez une personne qui vient vous voir et qui vous dit « Ah, mais vous avez fait ça, c'est pas bien », bon, vous dites « Bon, ben voilà, c'est son avis ». Après, vous avez 10, 100 personnes qui viennent vous voir et qui vous disent la même chose. Donc là, vous dites « Bah oui, il y a peut-être quelque chose qui gêne ». Et en fait, on écrit quand même des romans. Dans le mot roman, il y a cette volonté de que ce soit lu par des lecteurs. On écrit, on n'est pas dans le mythe de l'écrivain qui écrit pour lui, on écrit du roman populaire dont le but est d'être lu par des lecteurs. Donc c'est à eux qu'on veut faire plaisir. Et il ne faut pas que ça devienne une espèce de malaise ou de calvaire de lire un roman. Il faut que ça reste quelque chose d'agréable. Même si évidemment, on écrit du thriller, donc il y a quand même des passages compliqués. C'est ce qu'aiment les gens. Mais il faut trouver les équilibres, en fait. Il ne faut pas être toujours dans le noir, dans le négatif. Il faut aussi des parties un peu plus douces et positives.
Ça crée même des problèmes familiaux.
Ah bon ?
Oui, nous, je me suis trouvé à écrire un roman avec mon co-auteur où le personnage principal s'appelait Aurélia. Personnage qui vivait sa vie. Et comme dit Franck, c'est vrai que même si on a un plan, ce n'est pas un moment si... Et puis, à ce moment-là, mon co-auteur rencontre sa future femme qui s'appelle Aurélie. Il me dit, ça serait bien si cette fois on ne la tuait pas, parce que tu comprends, je vais me marier, je pense, à la fin du livre.
La belle famille.
Non, la belle famille encore, t'es pas là, mais sa propre femme. Et il me dit, moi je ne veux pas avoir la responsabilité, débrouille-toi avec le personnage, tu te débrouilles pour que ça se passe plutôt bien. Mais moi, sauf que j'avais prévu qu'elle finissait cercueil & co. Et j'étais très embêté, et ne sachant trop qu'en faire, je trouve une parade. Et j'envoie le chapitre à Eric, je lui dis « Écoute, là, je pense que tu seras satisfait, elle ne meurt pas. » Et je reçois un mail furibond d'Eric qui me dit « Écoute, un salaud, tu l'as mise dans le coma. » Je dis « Oui, ben, j'ai pas pu faire autrement. » Il dit « Bon, écoute, ok, je veux bien admettre, mais en revanche, tu débrouilles pour que d'une manière ou d'autre, elle soit plus dans le coma au prochain bouquin. » Je dis « Ok, il se trouve que là, c'était moi qui démarrais le début de l'intrigue. » Je fais mon chapitre, j'envoie à Eric, je reçois un second mail encore plus furibard qui dit « Non, t'es un salaud. Marcas est devant la tombe d'Aurélien en train de se recueillir. » Là, il dit « C'est pas possible. » C'est à partir de là qu'on a commencé à essayer de moins tuer les personnages féminins.
Et à partir de quel moment avez-vous eu l'idée de mettre en scène un romancier? Qui a eu l'idée d'ailleurs?
Vous avez... co-auteur.
Voilà, si je m'en doutais, mais vous avez quand même co-signé le livre, donc...
Non, dans ce roman-là, on a mis effectivement un des personnages qui mène la quête du Graal et qui la manipule, bien entendu, est un romancier de thriller ésotérique de langue anglaise. Allez chercher l'erreur. Bon, voilà, ça nous amusait énormément, puisque tout le monde sait effectivement que le thriller ésotérique en Europe a été remis à l'honneur, et dans le monde d'ailleurs, par Dan Brown. Et on a essayé de reprendre un petit peu cette figure. Puis ça nous a permis aussi, pas de régler des comptes, mais...
Un petit peu, quand même.
Un petit peu, de voir un petit peu comment... Mais c'est aussi un problème pour moi. Comment le romancier populaire et le romancier à succès... Alors, je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais en tout cas en France, une fois que vous avez du succès avec des romans, que vos bouquins se vendent, il y a toujours une petite animosité sur, pour ne pas dire la jalousie, sur le personnage du romancier. Et c'est vrai que c'est assez amusant parce que, voilà, en France, la véritable littérature, c'est la littérature blanche, la littérature un petit peu nombriliste... Ce qui, entre parenthèses, moi j'apprécie aussi beaucoup dans certains cas, la littérature populaire n'est pas forcément considérée. Donc on a créé un personnage qui se moque un peu de ces tendances-là, très française d'ailleurs.
J'ai été fort étonnée de lire ça parce que vous y mettez une nuance. C'est vrai qu'on a vu longtemps le roman policier en général méprisé, littérature de gare, etc. Mais depuis, l'eau a quand même bien coulé sous les ponts et c'est plus du tout le cas. Par contre, je ne pensais pas que le roman, le policier ésotérique, souffrait au fond de ce même dédain passéiste, snobisme, je ne sais pas.
En France, oh non, c'est pas du snobisme, c'est plutôt une tradition culturelle française qui remonte à loin, qui remonte au XVIIIe siècle. Hein. En France, tout ce qui touche à l'ésotérisme, c'est-à-dire en gros l'arrière-fond du spirituel, du religieux, on le confond beaucoup avec la magie, la sorcellerie, alors que ce n'est pas tout à fait ça. L'ésotérisme, c'est de penser la religion hors dogme, et d'essayer de voir ce qu'elle a derrière elle. Et en France, on est quand même dans le pays de Descartes, on est dans le pays de la raison. Et quand vous travaillez sur ces sujets-là, automatiquement, ce n'est pas considéré comme valorisant. Si vous faites un polar social qui va se passer dans un milieu social donné en France, que vous exploitez cette fibre-là, même si vous avez beaucoup moins de lecteurs, vous serez toujours plus considéré par la critique. En revanche, là où vous avez parfaitement raison, et on en est heureux avec Franck, c'est de voir que, puisque nous, ça fait 10 ans qu'on écrit, c'est de voir que, allez, depuis 20 ans, en Europe et en France en particulier, le roman policier est devenu un genre littéraire
reconnu.
Voilà. Que ce soit nous ou les autres, ça n'a strictement aucune importance, à la fois chez les libraires, à la fois chez les critiques, et maintenant à l'université, de plus en plus progressivement. Et ça, c'est vrai pour nous tous, et c'est vraiment une grande satisfaction.
Mm-hmm. Mais ceci ne nous dit pas non plus pourquoi le roman, le polar ésotérique, a un tel succès, quand même.
Parce qu'il répond à une attente. Il répond à une attente qui est fort simple, c'est le sens du sacré. Nous vivons dans des sociétés, sans être critiques, hein, mais qui sont, vous avez tout à porter, mais qui sont extrêmement matérialistes. Et les gens, ça ne leur suffit plus. Donc, quand vous lisez un polar ésotérique, vous avez à la fois ce que j'appelle, moi, le dégagement du monde, c'est-à-dire vous sortez du monde réel, vous rentrez dans un monde beaucoup plus fictif et dans lequel ben, vous n'êtes plus vous-même, vous êtes le héros, mais en même temps, vous retrouvez un sens du sacré qu'on a énormément perdu. Et ça explique la pérennité du roman ésotérique et son succès, j'allais dire, commercial, parce que les gens ont besoin de retrouver du spirituel. Et l'ésotérisme, je le redis encore, c'est prendre tout ce qu'il y a dans les religions qui est bon et qui élève l'homme en ne prenant pas les dogmes. Ça, c'est ça le véritable ésotérisme. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, surtout dans la crise qu'on traverse en France à certains niveaux, ça parle pas mal à pas mal de nos concitoyens.
Un de vos personnages dit, je vous cite, le polar marque le quotidien au fer rouillé du réel, alors que le thriller ésotérique le sublime.
C'est ça. Mais la tradition française du polar, alors, plus depuis, je dirais, Franck. Franck, il a renouvelé, non mais c'est vrai, il faut le dire franchement, il a renouvelé le genre. Jusqu'à à peu près à cette génération-là, le polar en France, c'était un polar de dénonciation sociale. Voilà. On était dans cette logique-là. Vous avez eu de très bons bouquins. Vous prenez Pouilly, c'est excellent.
Manchette, etc.
C'est excellent.
Jonquet.
Et puis après, ça s'est dégradé. C'est-à-dire qu'on a continué à écrire des polars avec les méchants, c'est les capitalistes, les méchants, c'est les politiques. C'était toujours la même chose. On avait l'impression que le roman se passait toujours à l'époque de Georges Pompidou. Quoi. C'était toujours la même chose. Et c'est ce qui a fait la chute du polar en France. Nous, on est arrivés un petit peu à cette période-là, et que comme Franck, lui, il n'a pas pris le social, il a pris tout ce qui touche au scientifique, qui, curieusement, n'était pas du tout traité par le roman policier, alors que c'est une mine absolue. Mm-hmm. Nous, on a pris l'ésotérisme, alors là, on y touchait encore moins. Maxime Chattam a pris tout ce qui est la question du mal, qui est une question à la fois sociologique, philosophique. On a pris ces thématiques-là, ces domaines-là, ces pays-là, et c'était une terra incognita. Et donc, effectivement, aujourd'hui, quand vous regardez le succès, les thrillers, c'est 80% du marché, et il en reste 20% pour le polar pur et dur. Pourquoi ? Parce que la France, vous ouvrez les médias, vous ouvrez la télé, vous voyez ce qu'il y a, quoi. C'est un réel, alors là, vraiment, marqué au fer rouge de quelque chose qui est négatif, de plus en plus. Les gens ont besoin de sortir ça, ils ont besoin d'espérance, et puis ils ont besoin aussi de comprendre. Et si vous prenez les polars de France, c'est aussi une compréhension du monde. Ce que n'offraient plus les polars sociaux, qui étaient une critique acerbe du monde. Là, quand vous êtes pour la France, vous apprenez et vous comprenez.
Vous aviez des... On a parlé de Dan Brown, mais vous avez des maîtres en la matière, parce que c'est quand même ce type de thriller et tout. On pense tout de suite à des écoles américaines, anglo-saxonnes, pas tellement françaises, finalement.
Non, alors ce qui est chouette aujourd'hui, c'est que je pense qu'en France, on sent qu'il y a de plus en plus de gens qui font confiance à cette, on va dire, entre guillemets, nouvelle école française qu'a très bien décrite Jacques. C'est vrai que les gens vont vers les grandes tendances. Alors il y a 10 ans, c'était Millennium, donc c'était cette vague nordique qui a duré des années. Hein. Avant cette vague nordique, il y avait les Américains.
Toujours,
les Américains, c'est-à-dire que les gens rentraient en librairie. Vous pouviez mettre tout ce que vous voulez autour des romans américains, ils prenaient des américains. Et moi, j'étais en librairie, je faisais mes dédicaces, il y avait les romans suédois, les romans nordiques. Les gens allaient là-dessus, regardaient même pas ce qu'il y avait autour. Aujourd'hui, j'ai l'impression, ça c'est un peu tari, cette vague nordique, parce qu'on a sorti, il y a eu Millennium, puis il y a eu de très bons livres. Et puis évidemment, comme ça marchait, il y a eu des choses moins bonnes qui sont sorties, hein, comme
voulait,
partout.
Hein, chaque ça, éditeur voulait son
scandale. Tous les romans nordiques ne sont pas excellents, il y a aussi des mauvais livres. Et donc les gens sont tombés là-dessus, se sont dit, ah bah finalement, il n'y a pas que de l'excellence. Et donc voilà, la vague s'est un peu ralentie, on va dire. Et les gens cherchent, ils disent, bah, vers quoi on va? Et puis finalement, il y a eu des auteurs, voilà, on a fait un peu partie de cette génération où on écrit des choses très différentes. Il y a Caryl Ferré aussi, qui écrit dans sa veine, dans les pays d'Amérique latine, des choses vraiment très réalistes autour des dictatures, etc. Très, très intéressantes. Voilà, on a chacun un peu des... Et les gens ont lu ça, ils se sont dit, mais oui, finalement, les Français, qu'on avait un peu mis de côté, sont pas si mauvais que ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un gage de confiance qui est en train de se dégager. On parle beaucoup, voilà, des auteurs français. On dit, voilà, il y a de la variété, il y a des histoires différentes, il y a encore du social.
C'est quand même autant ce qu'on appelle le nordique noir, par exemple, pour prendre quelque chose de récent, donc la vague scandinave, est assez homogène, si on veut. Bien sûr, chaque auteur a sa particularité. Mais je trouve que les Français sont beaucoup plus différents l'un de l'autre. On ne peut pas tellement vous comparer à Mussy. Je veux dire, chacun a sa touche, ça. Vous aussi. C'est...
Oui, mais il y a deux choses. Il y a d'abord le fait, et ça on n'en parle pas assez souvent, c'est que ce soit Franck, que ce soit Michel, que ce soit Maxime, on n'est pas près tous de la même génération. On est même pour la plupart regroupés. Dans un groupe qu'on appelle la Ligue de l'Imaginaire.
Parlons-en, oui.
On en parlera tout à l'heure.
Oui, bien sûr.
Il y a une spécificité française. C'est vrai que le thriller est né aux États-Unis, avec des règles. Il a très bien fonctionné aux États-Unis. Je pense qu'il est un petit peu en perte de vitesse aujourd'hui. Mais il y a une véritable école française. Et l'école française, elle s'est quand même inspirée d'un rythme qui était le feuilleton français du 19e, c'est-à-dire les Alexandre Dumas, etc. Ça joue énormément. Aujourd'hui, quand vous regardez, par exemple, le cliffhanger, c'est-à-dire la capacité que vous avez de mettre un hameçon à la fin d'un chapitre, c'est que le lecteur s'arrête, il est obligé de tourner la page, même s'il est 4 heures du matin. Soyons clairs, c'est une spécificité française. Ça, on sait faire. Et à quoi on voit qu'on sait faire? C'est tout simplement, c'est qu'on est traduit partout. Que ça soit Franck ou moi, on est maintenant traduit dans 20 pays à l'étranger. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a un savoir-faire français, une French Touch, qui s'exporte à l'étranger. Cinéma, en traduction, dans des pays même extrêmement excentrés, puisque pratiquement, que ce soit Maxime, que ce soit Franck, que ce soit nous, voilà, on est diffusé partout. Mais la France est un pays où vous aurez plus facilement un article dans les médias sur le polar nordique qui vient de l'extérieur que sur le polar français qui se vend. Mais ce qui est valable pour la littérature française est valable pour les industries françaises, où tout le monde va se gamberger de ce qui se fait aux États-Unis, mais l'exportateur français, non. C'est un snobisme à la française. Ça, c'est un classique, on n'en sortira jamais. Je pense qu'on en a pris notre parti.
Pas du moins,
nous, on travaille pour le futur. On sait que derrière nous, il y aura une autre école. Mm-hmm. Voilà, on bosse pour ça.
Maxime Chatham avait changé de nom pour avoir un Chatham, un nom qui a un petit accent, justement, américain, hein, en tout cas étranger. Raven et Giacometti, c'est votre propre nom?
Moi, c'est le nom de ma grand-mère. Je faisais la politique à l'époque, c'était un peu difficile de faire
des polars francs-maçons faisant de la politique en France, mais bon, c'est un peu dur.
Mais
aujourd'hui, Michel Bussy a gardé son nom, on n'a plus besoin d'américaniser.
Non, mais Giacometti, c'était...
Giacometti, c'est son vrai nom, son seul regret, c'est qu'il ne descend pas du sculpteur. Voilà, sinon, voilà. Mais ça, c'est un ratage, on ne peut pas tout avoir. Non, c'est Corse, ma pauvre amie.
C'est curieux.
Je bosse avec un Corse. Mm-hmm. Vous ne savez pas ce que c'est. Moi, si.
On parle justement maintenant d'une diffusion internationale. Franck, vos livres, en tout cas, un, si je ne m'abuse, a été adapté au cinéma. C'est quand même maintenant dans ce nouveau modèle de littérature, thriller et tout, en général, on s'attend à une adaptation, soit en série, soit sur un grand écran. Vous aviez été déçu ou content de voir vos personnages? C'était la Chambre des Morts.
Oui, j'ai eu la chance d'aimer le film, vraiment. Je l'ai trouvé très proche de l'univers que j'avais imaginé. Ils sont venus tourner dans ma région, le Nord, donc j'ai vraiment retrouvé tout ce qui m'a plu. Globalement, je pense que les romanciers sont très heureux quand ils sont approchés, que ce soit par le cinéma ou la télé, le fait que le film nous plaise ou pas, c'est finalement c'est un résultat final dont je ne tiens pas compte. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de plaisir avant d'arriver à cette fin, de voir une équipe travailler sur une histoire qu'on a créée nous-mêmes. Un film, c'est 50 personnes. C'est-à-dire, vous imaginez, vous avez créé en fait du travail, finalement. Vous avez créé de la matière. Et donc, il y a cette notion-là qui est vraiment, vraiment passionnante. Et je me suis toujours dit, le jour où je serai déçu s'il y a d'autres adaptations par le film, ça ne remettra pas en cause toute l'aventure qu'il y a eu avant. Voilà, donc ça a été vraiment une belle expérience. Il faut savoir que sur les romans, la plupart du temps, il y a ce qu'on appelle la cession de droit, c'est-à-dire que les histoires que l'on écrit et qui ont du succès intéressent forcément le milieu du cinéma. En plus, on écrit des histoires, on vient un peu, comme disait Jacques, du feuilleton, tout ça, donc on écrit des histoires assez visuelles,
Bien sûr, où il se passe des
choses, où il se passe des actions, où il y a des enquêtes, donc elles sont, entre guillemets, assez facilement adaptables, peut-être un peu moins quand c'est historique, mais il y a quand même cette facilité. Et donc forcément, ça intéresse le milieu du cinéma. Après, il faut savoir que pour arriver à un film, à la fin, il y a 90% de chances en général que ça n'aille jamais au bout. C'est-à-dire, ils vont prendre les droits, ils vont les mettre de côté, ils vont commencer à développer le film, il va y avoir quelque chose qui fait que, ah tiens, aujourd'hui, le thriller, ça ne marche plus trop au cinéma, on va plutôt faire du comique. Le cinéma, encore beaucoup plus rapidement que le livre, fonctionne par affinité, mais ça peut varier d'un mois sur l'autre. C'est-à-dire, s'il y a un gros succès au cinéma... du temps de Danny Boone, quand il y avait Bienvenue chez les Ch'tis. Moi, je me souviens, il devait faire La Forêt des Ombres en adaptation. C'était allé assez loin. Ils ont arrêté du jour au lendemain parce qu'ils se sont dit les gens veulent pas de noir, ils veulent rire. Et là, au cinéma, ça s'arrête, quoi. Ils se posent pas de questions. Donc voilà, ça fonctionne un peu de cette manière-là. Mais il faut être très, très patient dans le cinéma parce que ce sont des projets qui peuvent prendre des années. C'est-à-dire, entre le moment où on vous dit on va faire un film de votre livre, là, vous êtes super content quand c'est la première fois. Puis vous voyez les années passer, puis il ne se passe rien. Mais ça vit quand même, c'est-à-dire qu'il peut ressortir dans 5 ans, 6 ans, il y a quelqu'un qui vous appelle, va vous dire « Ah bah tiens, ça y est, on démarre le tournage, etc. » Donc, ce qu'on écrit, c'est ce n'est jamais perdu. Ça vit vraiment aujourd'hui, à la fois dans les librairies, mais un peu...
Ça vit autrement, voilà. Mais j'imagine que le commissaire Barkas a dû intéresser un petit peu le...
Mais nous, on n'est pas adaptable. Parce que nous, on n'est ni historique, ni contemporaine. C'est impossible d'adapter au
cinéma. Ça ferait une excellente série.
Au cinéma. Alors, effectivement, ce vers quoi on va tendre dans sans doute cette année, c'est d'adapter uniquement la partie contemporaine, mais plus tellement au cinéma, parce que je crois plus que ça soit le format aujourd'hui qui parle
à
nos lecteurs et aussi la génération de nos lecteurs. Mais bien évidemment, c'est la série. Et d'ailleurs, presque tous ici, sans doute Franck est le plus avancé d'entre nous, on a tous été approchés pour écrire des séries originales parce que la série reprend, c'est pas du thriller, mais elle reprend les codes du thriller, en particulier le cliffhanger, etc. On est en cette logique-là. Et puis, les jeunes générations aussi biberonnent à la série. Donc, c'est plutôt ce format-là qui va nous intéresser tous ou qui nous intéresse tous aujourd'hui. À mon sens, me semble-t-il, plus que le cinéma. Puis, il y a un autre problème aussi que nous, on voit assez rapidement, c'est que quand vous avez, comme Franck, comme nous, 10 ans avec le même personnage, on l'a dit tout à l'heure, les gens ont totalement intégré le personnage.
Ils l'ont défini.
Quand vous le mettez en chair et vous lui donnez un visage, alors là, en général, vous avez mais un rejet. Nous, on a fait une adaptation BD. L'adaptation BD, elle a très moyennement marché, mais pour une raison toute simple, elle n'est pas mauvaise. Les gens, ils le voyaient pas comme ça, et on a reçu des centaines de mails en disant « Mais vous lui avez mis quelle tête ! Mais il a pas. Mais chez moi. » Alors le plus comique étant, parce qu'on s'est amusé avec Eric, on les a classés. Les mails, parce que c'était vraiment intéressant, parce que c'est vrai. En plus, nous on travaille pas mal aussi avec notre lectorat. Là aussi, c'est une autre génération d'écrivains. Facebook, les échanges, les rencontres, le rapport au lectorat a littéralement changé par rapport à il y a 20 ans. Assez radicalement différent. Alors on a classé, et on s'est aperçu qu'on avait 30% des gens qui nous avaient écrit. Qui nous avait mais vraiment engueulé parce qu'il n'était pas blond. Or, dans le roman, il n'est jamais blond. Il a toujours été brun. Parce que mon co-auteur étant les cheveux blancs, évidemment, on ne peut pas... Bon. Et donc, il est brun. Et les gens se font un personnage à leur façon, et c'est-à-dire ça qui est prodigieux en littérature, et le jour où ils le voient en image, ou que ce soit BD ou cinéma, là, c'est plus le personnage qu'on a depuis 10 ans, et il y a une déception. Il y a des gens qui vous écrivent « Jamais plus je lirai vos bouquins depuis que vous avez été un BD. » C'est un scandale, hein. Oui, chef.
vous prenez attention aux réactions justement que vous suscitez sur les réseaux sociaux, cette masse, ce courrier des lecteurs, mais qui est beaucoup plus puissant que jadis, si on veut bien.
Oui, c'est vrai que c'est un...
Par exemple, votre héroïne, l'héroïne de Rêver, il y a eu beaucoup d'empathie, il y a beaucoup de gens...
Oui, bah oui, ça nous permet de...
S'identifier.
Comme dit Jacques, on a le rapport entre un romancier et son lectorat a complètement changé avec les réseaux sociaux. Il y a une notion d'instantanéité aujourd'hui. Mm-hmm. Je pense que tu es un peu comme moi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre roman sort le jeudi à 17h, vous avez déjà une critique qui tombe sur Internet, de gens qui l'ont déjà lu, et vous pouvez savoir ce que les gens en pensent tout de suite, parce que ça nous intéresse quand même, on a envie de savoir si le roman plaît. Et donc il y a cette notion d'instantanéité. Et donc ça a vraiment ça a changé. Il y a les gens qui... Après, effectivement, il y a des gens qui sont assez agressifs, mais ils font partie de... Voilà, ça, c'est classique. J'ai vraiment vécu ce que tu dis avec La Chambre des Morts, l'adaptation cinématographique, où tous les gens qui n'avaient pas lu le livre ont vraiment apprécié le film. Les gens qui ont lu le livre et qui ont vu le film l'ont beaucoup moins apprécié. Ils ont dit « Ah, c'est une mauvaise adaptation ». Et moi, j'allais aux avant-premières avec les acteurs, avec le réalisateur, et les gens ils posaient des questions mais qui n'avaient rien à voir avec le film. Et exactement ce que tu dis, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui était très perturbé après le film, et elle lève la main et elle dit « Mais pourquoi Lucienne Bell dans le film, elle est brune dans... ?» Mais c'était vraiment ça. Et en fait... Cette focalisation l'a perturbée pendant tout le film, ce qui fait qu'elle est complètement passée à côté du film, à cause de cette couleur de cheveux dont on se fiche complètement. Parce que, en fait, comme tu dis, il y a autant de marcasques qu'il y a de lecteurs. Chacun se fait vraiment l'image. Et quand on impose une image, que ce soit par la BD ou encore plus violemment par un film animé, on casse l'imaginaire de la personne. C'est-à-dire qu'il y a une rupture qui se crée à un moment donné, qui est quelque chose de très violent. Et ça va surpasser ce qu'on peut raconter derrière. Que le film, on pourra tout raconter, tout ce qu'on voudra dans le film, à partir du moment où la personne a fait ce blocage par rapport au personnage ou par rapport à l'univers qu'il avait imaginé, il ne pourra plus apprécier le film à sa juste valeur. Donc voilà, c'est important d'avoir tous ces éléments-là, parce que ça nous aide aussi à nous améliorer, puisque c'est aussi on s'améliore à chaque... C'est comme un sport, c'est-à-dire qu'à chaque livre, il y a des erreurs qu'on ne commet plus, il y a des choses nouvelles qu'on apprend. Et les lecteurs nous apprennent beaucoup sur nous-mêmes et sur nos propres personnages.
Et avec une autre remarque, c'est que ça a des effets positifs et négatifs, cette relation auteur-lecteur-nouvelle. Et dans les effets négatifs, il y en a deux qui sont assez curieux. Le premier, c'est que vous finissez par tomber sur des lecteurs qui connaissent votre œuvre mieux que vous. Mais vraiment mieux que vous. Et ce que parfois les gens ne comprennent pas, c'est que quand on sort de 6-7 mois d'écriture, vous êtes tellement plongé dedans qu'il faut absolument faire autre chose. Quoi. C'est pas possible. Il faut, voilà. Et donc, on est parfois dans le cas où on oublie très vite ce qu'on a écrit. Et 3 ou 4 mois après, vous avez la personne qui vient et qui vous dit « Oui, mais vous faites une conférence » et la personne très gentiment la loi dit « Mais page 78, vous avez dit truc. » Alors moi, j'ai un double problème, parce que parfois, c'est pas moi qui ai écrit cette page-là.
Ah, en plus, oui.
Et mon co-auteur est pas là, ou je suis pas là. Et vous vous retrouvez pris en contradiction, c'est parfois délicat. Mais après, il y a un autre effet qu'on a connu, pas nous, mais qu'on a connu, c'est Facebook. Facebook, l'échange est immédiat. C'est-à-dire, les gens vous disent, monsieur, j'ai adoré votre bouquin, tatati, tatata, tatata. L'ego, on prend. Bon. Mais vous répondez. Puis la personne, voilà. Et on connaît des écrivains qui sont faits littéralement cannibaliser,
ah oui,
et dont l'écriture, en fait, au lieu de passer dans le futur roman, a disparu et est passée dans l'échange avec les autres. Et on a lu des cas d'écrivains qui n'écrivent plus, parce qu'en fait, ils écrivent sur Facebook. Et à un moment, on est rentré dans une logique où on disait, non, écoutez, maintenant, on ne répond plus, parce que vous avez le choix. Soit on écrit les bouquins que vous voulez lire, soit on vous répond, mais ce n'est plus possible. Et ça, ce rapport-là, il est extrêmement étrange, parce qu'on se rend compte que les gens ont un rapport de proximité avec le livre qui nous dépasse, mais qui nous dépasse vraiment très, très largement. C'est-à-dire que ça leur parle à des niveaux intérieurs que nous, on ne connaît pas, même quand on écrit le bouquin. Quoi.
Vous pensez que c'est des mécanismes complètement nouveaux, ça, qui sont vraiment inhérents à la technologie, au fait que le monde entier soit un peu connecté désormais C'est ce lien lecteur
oui, mais
romantique,
vous savez,
qui est changé
Ça évolue même encore pire que ça, parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a un... Je ne sais plus comment ça s'appelle, où les romanciers, entre guillemets, écrivent leurs histoires sur un peu comme un Twitter, comment ça s'appelle ce... c'est un site d'écriture, c'est-à-dire aujourd'hui, les nouveaux romanciers 2.0 n'écrivent plus, même sur ordinateur, leurs livres, ils écrivent directement leurs histoires à suivre, alors ils écrivent 5 phrases, mm-hmm. et les gens aiment l'histoire et les suivent un peu comme sur Facebook, et le livre se crée...
comme un cadavre écrit.
Je ne sais plus comment ça s'appelle ce site, c'est vraiment maintenant, et ça intéresse les maisons d'édition aussi, parce que effectivement, il peut y avoir parmi ces créations, on va dire en direct, parce qu'on est vraiment dans la création en direct, hein, ce qui est encore plus rapide que les échanges qu'on fait, il peut y avoir des choses, des perles qui fonctionnent bien. D'ailleurs, je crois que Twilight, par exemple, est né comme ça, c'est-à-dire que où 51 degrés, enfin, je ne sais plus, c'est apparu au départ sur des gens qui suivaient un auteur qui écrivait directement son livre pour les internautes. On est un peu dans ce monde-là, avec tout ce qui est youtubeurs et compagnie, qui font des millions de vues. Donc finalement, on a intérêt à faire attention.
Parce que vous êtes, vous, très, très ferré en algorithme. Vous l'êtes toujours, déjà? Ou bien vous êtes passé complètement à écrivain professionnel? Vous travaillez toujours?
Non, j'ai arrêté il y a 7-8 ans. Mm-hmm. J'étais ingénieur en informatique. Non, voilà, je fais que de l'écriture aujourd'hui. Alors, j'écris les romans, d'un côté, et puis un peu de petites choses à côté, comme des scénarios télé ou de la BD, parce qu'en fait, tout est connecté. C'est de la création d'histoires. On crée des histoires, on invente des histoires dans notre tête, et après, que ce soit l'écriture de romans, ou par la BD, ou par le cinéma, c'est juste un moyen de l'exprimer, cette idée. Donc voilà, moi, je suis plutôt là-dedans, mais ça se passe plutôt bien.
Et trouver l'algorithme magique qui ferait le best-seller instantané.
Ah, mais je crois qu'il y a aussi des logiciels qui font ça, qui écrivent un peu des histoires, qui mettent des mots un peu au hasard comme ça. Bah, non, il n'y a pas de recette. Alors ça, c'est un peu... Les gens aussi viennent nous voir sur les salons en disant, mais comment... si vous aviez un conseil à donner pour écrire un livre... Bon, c'est jamais évident, parce que c'est pas un conseil. Je crois que la chose qui est commune à tous, c'est qu'il faut pas mal d'acharnement, pas mal de travail, en fait. On n'est plus... en tout cas, dans nos romans, le thriller, le policier, il y a une exigence du lecteur. Jacques en parlait tout à l'heure. Ils ont un besoin de précision, ils ont un besoin... Ils connaissent toutes les histoires. Donc, il faut toujours renouveler. Et donc, c'est beaucoup de travail. C'est toujours ce que je dis aux gens. Il faut une histoire, effectivement. Il faut avoir l'histoire. Mais derrière, il y a de l'acharnement, il y a du travail. C'est un boulot à plein temps. Mais qui reste une passion avant tout. C'est-à-dire, il y a toujours la notion de plaisir qui doit être là. Sinon... ça serait compliqué.
Comment ça fonctionne quand on est deux à vivre ce rapport de... Est-ce qu'on s'encourage quand il y en a un qui cale ou qui...
Je vois dans le cas de l'imaginaire où 95% des auteurs écrivent seuls, c'est un travail vraiment solitaire. Et en particulier, là je parle sous le contrôle de Franck, mais on en a souvent parlé, quand on se fourvoie seul. Et donc vous pouvez prendre une impasse et vous ne vous en rendez pas compte. En revanche, quand vous êtes deux, si vous avez confiance dans le regard de l'autre, ce qui n'est pas toujours évident d'ailleurs, c'est plus difficile de continuer dans l'erreur. Donc ça, c'est un gros avantage. Mais ce qu'on ne dit pas du métier d'écrivain, c'est que c'est un métier qui est éminemment solitaire en fait. Vous êtes vraiment seul tout le temps dans les périodes d'écriture. C'est parfois un petit peu délicat effectivement à gérer, parce que le roman c'est comme un monstre, hein, ça dévore progressivement, ça avance, parfois on ne sait pas où ça va aller exactement, et vous pouvez avoir des gros moments de doute sur ce qui va sortir. Mais un bouquin, je pense que c'est pareil pour Franck, ça prend aujourd'hui 6, 7, 9 mois pour l'écrire. Et c'est des périodes, oui, qui sont toujours des cas dont on est soulagé de sortir.
Mais vous recommencez quand même chaque fois.
Parce qu'on est masochiste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Serial killer.
Non, mais après, il faut pas. Voilà, c'est aussi un métier, parce que c'est un vrai métier dans lequel il y a d'immenses satisfactions quand le bouquin est sorti, que vous rencontrez les gens. Là, c'est vraiment le moment où ça se libère. Vous voyez les gens, vous voyez la réaction des gens. Alors, elles sont positives, elles sont négatives, mais à la rigueur, peu importe. Vous avez l'impression d'être beaucoup plus vivant. Quand vous l'écrivez, c'est une sève qui s'étiole progressivement, jusqu'à la fin. Et c'est vrai que tout le monde finit quand même tous sur les rotules.
Il y a le doute quand même. On se dit, mais là, je suis en train d'écrire des histoires de Graal. qui va pouvoir lire ça. Enfin, on est parfois, on a un doute affreux qui saisit ou pas. On y croit.
Jacques, ils sont deux, donc c'est vrai que l'un l'autre peuvent se remettre dans le droit chemin, mais je pense que quand même, on doute en permanence. Quand ils choisissent un sujet comme le Graal, tu dois te poser un tas de questions au départ, c'est-à-dire par rapport à une idée de base, parce qu'on va quand même se la farcir pendant un an, cette idée. Et on ne peut pas se tromper. Mm-hmm. Au bout de 8 mois, on ne peut pas se dire, tout compte fait, non, ça ne va pas marcher. Donc, quand on a une idée qui apparaît comme ça, il faut la peser, il faut peser le poids, il faut essayer de voir toutes les parties positives et les parties négatives. Il faut essayer d'imaginer les gens, de se dire, mais est-ce qu'ils vont vraiment croire à ce qu'on va raconter, parce que c'est quand même gros, ou alors j'ose faire ça, ou je parle de choses qui ne sont pas forcément réelles. Donc c'est compliqué de se dire. Et à un moment donné, on se dit, allez, j'y vais quand même. Donc on surpasse le doute. Et après, les doutes reviennent dans l'écriture. C'est-à-dire, ça c'est en permanence. C'est-à-dire, on a des choix à faire dans l'écriture. Et ça, c'est horrible. Quand vous êtes face à un choix, c'est-à-dire, je vais schématiser, est-ce que je dois, par exemple, tuer ce personnage ou je dois le laisser en vie? Et puis vous dites, vous essayez d'imaginer, puis vous dites, allez, je pars par là. Et puis vous vous rendez compte, vous continuez à écrire, et puis vous vous rendez compte, vous commencez à vous sentez mal. Mais vous avez déjà écrit derrière, et puis vous continuez, et puis vous dites, je vais y arriver, puis à un moment donné, ça bloque, et il faut revenir là. Et ça, en fait, c'est tout le temps que ça arrive. Ça, c'est le plus gros niveau. Puis après, dans chaque embranchement qu'on prend, il y a toujours des petites choses aussi. Et on doute. Et en fait, ce qui permet de ne pas douter, c'est de dire, si je suis parti de cette idée, ça veut dire à un moment donné, si j'ai osé me lancer, c'est que j'y crois. Et après, on a aussi quand même l'expérience des livres passés, c'est-à-dire que on se dit, aujourd'hui, il y a des choses, on se fait confiance, en fait. Je pense que la confiance en soi, dans l'écriture, c'est très, très important. En se disant, ça fait 10 livres ou 15 livres que j'écris, j'y suis arrivé les 14 précédents, j'ai déjà rencontré ce problème-là, même si ça a été dur, je sais que je vais arriver au bout. Ce qui est très compliqué quand on commence à écrire, parce qu'au début, on ne sait pas du tout comment ça se passe. Et donc ça, c'est important aussi, d'une année sur l'autre, d'avoir ce bagage, ce qui ne simplifie pas. Les livres sont toujours aussi compliqués à écrire. Il faut écrire des choses différentes. Ça, pour moi, c'est l'un des éléments les plus compliqués, pour vous aussi peut-être, ça fait quand même 15 livres. Quel thème je vais pouvoir trouver qui ne ressemble pas aux autres? Quelle mécanique? Les personnages, ça c'est très très compliqué, parce que les personnages récurrents, on a la facilité, ils existent déjà. On n'a pas à les créer, on les connaît, on connaît leur passé, donc tout de suite on peut être dedans. Le revers de la médaille, c'est que les gens attendent ces personnages-là. Ils attendent qu'il leur arrive des choses qui sont différentes de ce qui s'est déjà passé. Et donc, finalement, ils attendent autant l'histoire que ce qui va arriver au personnage. Et ça aussi, c'est compliqué. Donc, il faut... tout ça, ça se mélange en même temps, si vous voulez, à ce moment du lancement de l'écriture. Et donc, on est confronté à tous ces problèmes-là qui nous font très, très fortement douter à certains moments. Parfois, on se sent mieux, et puis après, ça, on redoute, etc. Mais je crois que, finalement, moi, je me dis, plus on doute, et mieux c'est. Et je pense que meilleur sera le livre. Et quand je rencontre un problème, je suis presque content, parce que je me dis, c'est que c'est compliqué, c'est que ce que je suis en train de faire, ça ne coule pas de source, et donc ça, c'est que finalement le livre n'en sera que meilleur, en fait.
Dans votre livre, il y a ce passage très amusant où il y a une espèce de sarcasme qui est fait très très élégamment, où vous semblez suggérer que Dan Brown et Marie-Madeleine, c'était pas une bonne idée.
Non, le problème avec Dan Brown, dont je dis tout de suite que moi j'apprécie, je lis.
Oui, c'est pour ça que je dis, il y a beaucoup d'élégance.
C'est que sur le livre qui a été son plus grand succès, en l'occurrence le Da Vinci Code, ouais. Vous avez, sur la première page, il cite des extraits de textes qui sont dans la Bibliothèque nationale de France, qui est tout à fait exact. Il dit, j'ai bâti mon intrigue par rapport à ces textes, tous ces textes sont vrais. Or, tous les gens qui connaissent savent que ces textes sont faux. On sait qu'on a eu un arnaqueur qui les a déposés lui-même dans les années 74, dans les archives de la BNF, pour les faire passer pour faux. Aujourd'hui, c'est prouvé. Et ça, c'est un ésotérisme, moi, c'est quelque chose qui me gêne, fondamentalement. C'est pour ça qu'on met toujours, nous, à la fin de nos bouquins, des annexes pour distinguer le vrai du faux. Moi, ça me va très bien que les gens partent dans quelque chose de totalement imaginaire, mais je ne veux pas qu'ils prennent des vessies ésotériques pour des lanternes mystiques. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est extrêmement, extrêmement important. Et après, sur Marie-Madeleine, ça vient de quelque chose qui m'avait beaucoup troublé. C'est que, vous savez qu'un des grands mythes ésotériques, c'est Rennes-le-Château, le secret de Rennes-le-Château. Enfin, c'est assez connu, etc. Un abbé qui a trouvé un trésor, et puis c'est devenu... ce trésor est devenu complètement mythique. On a dit, mais c'est pas un trésor, c'est en fait le Christ qui a une descendance. ça, c'est, le bouquin d'Adam Brown, c'est ça, et ça s'est vendu à 23 millions d'exemplaires. C'est quand même un succès assumant colossal. Mais après, c'est la retombée. C'est-à-dire que cette histoire, elle est réelle, elle est dans un petit village de l'Aude, dans le sud de la France, ça s'appelle Rennes-le-Château, petit village où il y a 75 habitants l'hiver, et un chat. Et nous, on y va avec Eric depuis des années, on connaît très bien le maire, et un jour, il m'a raconté une anecdote qui m'a terrifié. C'est que les gens, aujourd'hui, ne lisent pas la Bible, mais lisent Dan Brown. Et donc, ce que dit Dan Brown, verita est, comme on dit en latin. Donc, Marie-Madeleine, bah Marie-Madeleine, elle a joyeusement forniqué avec le Christ, et puis je vous dire, ça a donné. Et résultat des courses, un jour, on passe un été à Rennes-le-Château, on voit le maire qui nous dit ah « bah, vous savez pas ce qui m'est arrivé, il m'est arrivé une bien bonne. Ah, »« bah, il t'est arrivé quoi ?»« bah, c'est très simple, j'ai eu un couple de jeunes Espagnols qui sont venus, ils sont arrivés dans le village, ils m'ont dit « Monsieur, où est la maison de Marie-Madeleine ?» Et là, je me suis dit « Là, quand même, il faut faire très attention. » Et c'est là où on a, en matière d'ésotérisme, une responsabilité, c'est qu'on a vu fleurir depuis 5 ans ce qu'on appelle toutes les théories du complot. Tout le côté conspirationniste. Ça envahit littéralement la toile. Vous n'avez pas aujourd'hui un attentat en France que dans les 10 minutes, on vous explique que c'est pas ça, que c'est manipulé, etc. C'est devenu une véritable maladie. Et je ne vous parle pas des collèges et lycées français, où je vous assure que les professeurs de littérature et d'histoire vivent un enfer, parce qu'à tout moment, les mômes disent « ça s'est pas passé comme ça, c'est pas vrai, ça va du « les chambres à gaz n'ont pas existé » à « les attentats ont été faits par la CIA ». C'est constant. L'éducation nationale, d'ailleurs, met en place des programmes de réadaptation historique pour dire aux gens « Non, attendez, ça existait. » Et nous, on l'a vu avec le lectorat. Les gens viennent ici et vous posent des questions. Moi, je ne sais pas comment répondre. Je cite une anecdote qui m'avait beaucoup frappé. Un jour, une jeune femme vient, me dit « J'adore vos bouquins, etc. » Puis j'adore, ça parle des francs-maçons. Je dis « Bah oui, c'est un peu le thème. » Je dis, ouais, c'est génial. Et vous savez pourquoi j'adore ça? Je dis, non, madame, je ne sais pas. Elle me dit, parce que moi, je vis en province et j'habite devant l'entrée d'une loge maçonnique. Je dis, bah, écoutez, madame, vous avez de bons voisins. Qu'est-ce que je lui dise de plus? Elle me dit, oui. Puis alors, je les regarde. Hein, ouais. Et j'ai remarqué qu'ils se réunissaient deux fois par mois. Je dis, bah, oui, c'est le tarif syndical. Vous savez, on a beau être les maîtres du monde, on bosse un peu quand même. Elle me dit, ah oui, c'est vrai. Puis je les regarde, je les vois. Puis il me dit, puis je les compte quand ils rentrent. Écoutez, madame, chacun se passe ses vendredis soirs comme il veut. Hein, pour y regarder à la télé aussi. Ouais. Mais vous savez, je les compte quand ils sortent. Et là, j'ai commencé à avoir des sueurs froides en me disant, putain, c'est très mal barré. Et je lui dis, oui, vous les comptez quand ils sortent, avec un joli sourire et tout. Je dis, oui. Et elle me dit, et vous savez quoi? Non, il en manque toujours un. Alors là, j'ai dit, écoutez, madame, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Une loge maçonnique en province, c'est, allez, 40 personnes maxi. On se réunit deux fois par mois, mais pendant juillet et août, parce qu'il y a des vacances aussi. Et je dis, si vous calculez, 2 tenues, 10 mois, ça fait 20 tenues. Si on en tue un chaque fois, en 1 an, on en a tué 20. En 2 ans, on en a tué 40. Je lui dis, il n'y a plus de loge. Et j'étais super content, parce que moi je suis pas un scientifique comme mon ami, et donc là j'ai l'impression d'avoir découvert le Graal mathématique. Et cette femme avec un sourire charmant me regarde et me dit, ouais, mais vous recrutez beaucoup. À partir de là,
vous étiez...
Mais voilà, que ça soit Franck dans les questions scientifiques, que ça soit moi dans les questions ésotériques, c'est vrai qu'on a une responsabilité qui là dépasse le fait d'être exact, mais le fait aussi que les gens n'imaginent pas des choses, parce que ça a des répercussions en fait sociales, ça parfois les maintient dans l'idée que le monde entier est un complot. Et ça, c'est quelque chose qui se répand. Alors, ensuite, je ne sais pas, mais en France, c'est devenu massif de façon très importante.
Mais je pense, avec le précédent, en tout cas, pandémie, ça a dû, vous avez dû écrire avec beaucoup plus de circonspection, non?
Oui, alors c'est vrai que ce sont toujours des sujets délicats, parce que, effectivement, quand les gens lisent ce genre de livre, ils ne savent pas si c'est vrai ou faux, en fait. Nous aussi, on a un souci de précision, mais on raconte aussi des histoires, donc il y a une part d'invention quand même dans nos récits. Et donc c'est vrai que les sujets des microbes, c'est toujours quelque chose de délicat, puisque ça fait peur aux gens. C'est vrai qu'on parle beaucoup de terrorisme. Moi, je parlais de bioterrorisme. Donc ce sont des sujets assez délicats à aborder, même quand vous allez voir finalement les scientifiques, hein, parce qu'il y a une méfiance qui est gigantesque. Moi, je suis allé à l'Institut Pasteur de Lille. Il y en a 2 en France, il y en a 1 à Lille et 1 à Paris. Quand j'ai débarqué là-bas en disant voilà, je suis romancier et j'aimerais écrire un roman sur les microbes, on m'a regardé avec des yeux comme ça, on m'a dit oulala, lui, il est dangereux. Voilà, donc il y a une méfiance de la part des scientifiques, c'est normal, puisqu'ils travaillent sur des sujets qui sont très très délicats. Mmh. Ils savent que voilà, ce sur quoi ils travaillent intéresse aussi des gens malfaisants. Et on se rend compte finalement au fil des rencontres qu'il y a une confiance qui naît entre le chercheur et moi-même, puisqu'ils se rendent compte de mon travail, de ce dont je veux réellement parler, que j'essaye d'être plus proche possible de la vérité. Donc voilà, ça crée des romans qui sont très réaliste au final. J'étais assez heureux quand il y avait un grand spécialiste de la grippe qui était le professeur Camus, qui a longtemps travaillé pour l'État du côté du ministère à la fois de la Défense et de la Santé pour créer des scénarios catastrophes en cas de dispersion de microbes, c'est-à-dire comment on peut disperser un microbe et comment on doit réagir par rapport à cette dispersion. Et donc, ils établissent vraiment des plans qui font 100 pages, hein, qui sont par exemple les plans, pas Vigipirate, mais Biotox, ou tout ce genre de choses. C'est-à-dire, quand il y a dans un métro, à un moment donné, un microbe, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, quand il a lu, quand il a écouté le scénario que je lui proposais, en tout cas, de la manière dont mon méchant, entre guillemets, dispersait son virus dans la population, et qu'il a lu le livre, il a dit, mais c'est le genre de scénario que j'aurais pu proposer au ministère, parce qu'en fait on est là pour inventer les scénarios les plus improbables possibles, mais qui sont possibles. C'est-à-dire finalement le scénario dans Pandémia, il y a 0,1% de chance qu'un jour quelqu'un réussisse à le faire, parce que les microbes on peut pas les déplacer comme ça, parce qu'il faut des conditions, machin, mais ce 0,1% c'est ce qui les intéresse, parce qu'ils se disent bah oui, quand en 2001 il y a deux avions qui se sont crashés dans les tours, qui aurait imaginé ce scénario-là? Donc voilà, donc les lecteurs, eux, se disent, mais est-ce que c'est vrai ou pas? Mais finalement, il y a toujours une part de réel, c'est-à-dire que ça pourrait se passer. Ça pourrait se passer vraiment quand on rassemble les pires éléments, les pires conditions, etc. Mais le reste, c'est de la fiction. Et on doit aussi se méfier de ne pas être trop proche de la réalité documentaire. C'est-à-dire que les gens, on est déjà dans un monde très compliqué, violent. Si notre roman, il y a quelque chose de trop documentaire qui se dégage, de trop réaliste, les gens ne vont pas adhérer parce qu'ils vont avoir l'impression d'allumer leur télé, de regarder le journal de 20h et d'avoir peur. On n'est pas là pour faire peur aux gens, on est là pour les distraire en fait, à travers ces thèmes-là. Donc il faut aussi faire très très attention. Et quand même finalement, de par en fait l'aspect extraordinaire de nos grands méchants qui sont toujours très très tordus, complexes, finalement ça rassure les gens parce qu'ils se disent bah oui, ils ne doivent pas exister en fait.
Alors vous savez quand même que le ministère de la Défense finance à la Sorbonne à Paris un master 2 d'analyse des conflits armés, et donc il recrute des étudiants niveau master 1 principalement sur Paris, et ce recrutement se fait par lettre évidemment, mais il y a un entretien oral, et l'entretien oral on leur demande s'ils lisent des thrillers parce qu'on veut savoir si ces gens seront capables de former des scénarios qui seront à un moment réalisables dans la réalité et qui intéresse l'armée, parce que eux, ce sont des militaires qui n'ont pas une vision plus globale de la société ou pas fictive. Ah et oui. Ça, c'est très curieux. Moi, je pensais qu'on demanderait plutôt des compétences en mathématiques. Non, ils ne veulent que des littéraires. Et la question, c'est pas vous lisez Balzac, est-ce que vous lisez des thrillers? Ça, je me dis, tiens...
C'est réconfortant.
c'est réconfortant, je ne sais pas. Mais on attend avec impatience, Franck et moi, d'être contactés du ministère de la Défense. Je vous garantis qu'on va leur faire un scénario. Ils ne vont pas s'en remettre.
Est-ce que vous avez des questions? Je suis là. Parce que sinon, j'en ai une dernière. Donc, vous faites partie, non pas d'une loge de l'imaginaire, mais d'une ligue de l'imaginaire. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc, c'est un groupe de romanciers. Expliquez-moi. Je sais juste qu'il y a une histoire de marmotte exhibitionniste.
Oui, non, alors...
Ça remonte à loin.
Je ne dis pas la marmotte exhibitionniste.
Juste celle-là, et puis je vous laisse partir. Mais...
Moi, je fais l'imaginaire, Franck fait la marmotte.
Okay. D'accord.
C'était plutôt un constat, c'est-à-dire qu'on on était sur des salons comme celui-ci, et on était plutôt...
une dizaine d'écrivains, des écrivains...
Oui, on est des écrivains qui ont les mêmes on a à peu près le même âge, on a les mêmes références, on a les mêmes lectures quand on était plus jeune, et on se lit aussi les uns les autres, et on s'est rendu compte de ça quand on s'est rencontrés sur des salons principalement. En général, vous savez, sur les salons, bah voilà, on ne se connaissait pas plus que ça, puis il y a des rapprochements qui se font, on s'est rendu compte que ça marchait bien quand vous discutez avec Bernard Werber, avec Jacques, avec Maxime Chatham. Ah oui, bah, ah, tu lisais ça quand tu étais jeune, ah, tu regardais telle série, tu regardais V, tu regardais. Enfin, voilà. Et voilà, donc on se dit, mais. Et on parlait de nos livres, on parlait de cet amour commun, voilà, de la littérature populaire qui était la nôtre. Et on s'est dit, bah, tiens, pourquoi on ne créerait pas quelque chose qui permettrait de finalement parler de notre genre, qui est celui globalement de l'imaginaire, puisque dans cette ligue, y a plusieurs genres dans le genre policier qui est. Policier, c'est le mauvais terme, le roman policier, parce que ça englobe beaucoup plus de choses. Au roman d'intrigue, voilà. Donc il y a Bernard Werber qui écrit sa fiction. On en a parlé tout à l'heure pour nous. Voilà, donc c'est très très varié. Et on a créé cette ligue, voilà, pour parler de ce genre-là. On en parle sur les salons quand on est invité ensemble, on fait des conférences. Et puis aussi à but un peu plus, on va dire pas égoïste, mais c'était Jacques parlait de la solitude tout à l'heure. C'était aussi un moyen d'être moins solitaire dans l'écriture. Parce qu'on se pose tous des questions. Bernard Werber, qui écrit depuis 30 ans, bah, il se dit, mais toi, comment tu fais ça? Parce qu'il n'avait pas les réponses, parce qu'il n'a jamais eu l'occasion, finalement, de pouvoir en parler ouvertement à quelqu'un. Et on se rend compte que les questions qu'on se pose dans l'écriture, les blocages que l'on a, on se les pose tous. Donc c'était un moyen, en fait, de quand on se regroupait, de répondre à ces questions-là, de dire, bah, toi, comment tu fais quand tu es confronté à tel problème? Voilà, donc ça nous permet aussi, voilà, d'avoir des certaines réponses liées à l'écriture de nos livres.
Puis c'est Marmotte.
Ah oui, alors les Marmottes exhibitionnistes, avant ça s'appelait la Ligue de l'Imaginaire, ça s'appelait comme ça, alors c'était pas encore officiel, tout simplement parce que c'est la première rencontre, la naissance de ce groupe s'est faite dans un salon qui était en montagne, alors je crois que c'était à Val d'Isère, c'était à Val d'Isère, où on était cinq, on se retrouve le soir à cinq, il y avait Henri de Venbruck, il y avait Laurent Scalès, il y avait Maxime Chatham et Patrick Bowen, si mon souvenir sont bons, et moi-même. Et là, il est laïque, parce qu'on discute, on dit, bah ouais, ça serait bien de se réunir, qu'on soit ensemble, qu'on fasse des réunions, et puis des conférences ensemble pour parler de notre genre. Puis on se dit, mais il faut trouver un nom à ce groupe. Il faut qu'on le trouve ce soir, en fait. Bon, on avait quand même bien mangé, on avait bien un petit peu de vin, avec l'altitude, tout ça, bon, vous savez. Et c'est en plein hiver, et puis à l'hiver, il y a des marmottes, et puis, vous savez, elles ont une grosse fourrure et tout. Et on s'est dit, voilà, il faut qu'on trouve un nom, puis il y en a qui a sorti Marmotte Exhibitionniste. Mais comme ça, en fait, bon, ça nous a amusés, donc ce nom est resté un peu quelques mois, puis on s'est dit, ça ferait pas sérieux quand même auprès des médias comme nom de groupe.
Mais c'est pas Franck qui a trouvé le nom de la marmotte. Normalement, je sais qui c'est. Bon, on vous le dira pas.
Et vous le direz pas. Bon. Ben, je vous remercie, en tout cas. Merci. Continuez à nous faire rêver. Merci.